France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Barthélémy Gaillard, Louan Deniel et Pénélope Lemoguen, réalisée par Vigeur Le Cuivre, et à la technique ce matin, c'est Anthony Thomasson. C'est le nouvel épisode de notre longue série sur les villes contre les États. Aujourd'hui, un État contre une ville, plutôt Hong Kong, où prend fin le rêve de liberté.
Jimmy Lai, qui a trahi le pays et Hong Kong, a été condamné à 20 ans de prison. Une lourde peine qui adresse un avertissement solennel contre les complots malveillants de collusion avec des éléments extérieurs et les atteintes à la sécurité nationale.
Je pense que nous pouvons encore attirer l'attention sur le sort des prisonniers politiques et sur la situation à Hong Kong. La contestation à Hong Kong ne peut plus s'exprimer aussi ouvertement qu'auparavant. Et les militants utilisent désormais d'autres moyens pour faire passer leur message et rester connectés.
Nous ne verrons probablement plus 1 million de personnes défiler dans les rues. Pas parce que nous sommes satisfaits du gouvernement, mais parce que nous vivons désormais dans la peur.
Un rond pas tout à fait clos finissant par un trait horizontal si l'on devait décrire la forme que prend Hong Kong sous les coups portés par le gouvernement central chinois. On pourrait reprendre les mots de Georges Perec dans La Disparition, roman où les personnages s'évanouissent dans le néant, où le sommeil n'est plus qu'une descente dans l'oubli et où à la fin, comme dit Marie Dariussecq, le manque lui-même ne laisse pas de traces. Car à Hong Kong, les partis politiques se dissolvent, ainsi du Parti démocrate pas plus tard qu'en décembre. Les opposants se volatilise, le mania de la presse, Jimmy Lai entre autres, passera les 20 prochaines années en prison après sa condamnation fin janvier, les voix s'éteignent sous peine de subir le même sort et les foules s'évaporent, on ne se rassemble même plus les 4 juin dans le parc Victoria pour les traditionnelles veillées en mémoire des victimes de Tiananmen. 6 ans après sa promulgation, la loi dite de sécurité nationale a donc produit les effets escomptés, loi imposée par Pékin et non débattue au Parlement local, qui est aujourd'hui d'ailleurs une coquille vide, puisque sans opposition. Loi renforcée en 2024 par plusieurs ordonnances qui ont encore restreint les espaces de liberté et mis fin à l'exception hongkongaise dont jouissait la ville depuis sa rétrocession à la Chine par les Britanniques en 1997. Un effacement que nous allons tenter de raconter depuis la société jusqu'aux institutions avec toutes les failles et interstices de résistance qui subsistent, mais aussi de solidarité, comme on l'a vu en novembre lors du grand incendie de Taipo. Bonjour Chloé Froissart.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes sinologue, professeur de sciences politiques au département études chinoises de l'INALCO. Vous avez dirigé avec Han Cheng « Pensée en résistance dans la Chine d'aujourd'hui » paru en folio essai chez Gallimard. Nous sommes également depuis Hong Kong où il est déjà 18h avec Éric Sautedet. Bonjour.
Bonjour.
Merci.
Bonsoir.
Oui, bonsoir pour vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur indépendant, directeur de Chine Expert, enseignant à l'Université chinoise de Hong Kong, à l'Université baptiste de Hong Kong et à City University. Et puisque vous êtes sur place, Éric Sautedet, et pour commencer par le plus immédiatement visible, peut-être, en tout cas à l'échelle de la vie de tous les jours, comment est-ce que vous avez vu Hong Kong changer ces derniers mois à mesure que s'est resserré l'étau de la Chine continentale sur cette cité et son système jusque-là à part, est-ce que cela se voit dans le paysage d'une certaine façon ? Est-ce que vous êtes encore avec nous, Éric Sautedet ? Non, je crois qu'on vous a perdu. Chloé Froissart, vous n'êtes pas sur place en ce moment, vous êtes beaucoup allé à Hong Kong, y compris ces dernières années. Est-ce que la présence chinoise, ces dernières années, s'est de plus en plus vue dans le paysage urbain ?
Oui, alors pour y retourner régulièrement, la physionomie de Hong Kong change petit à petit. On voit des Chinois du continent qui viennent, qui ouvrent de nouveaux commerces. Alors il y a une immigration qui a changé. Autrefois, quand l'immigration était très très contrainte à Hong Kong, c'était plutôt des gens qui avaient les moyens, qui venaient parfois juste pour une journée pour acheter des produits de luxe ou des produits de première nécessité, par exemple du lait, un poudre pour bébé qu'on ne trouvait pas en Chine, et repartaient. Et là, on assiste petit à petit à une nouvelle immigration de travail, avec des gens qui viennent ouvrir des salons de massage, de nouveaux restaurants de Chine populaire, voilà.
Donc, mais quelque chose qui se voit, mais est-ce qu'il faut nécessairement le lire avec une grille de lecture politique ? Est-ce qu'il y a une intention de la Chine continentale d'envoyer des Chinois ? Non.
Ah non, absolument pas. Et c'est d'ailleurs quelque chose un amalgame qu'il faut surtout pas faire. Les gens viennent parce qu'ils ont besoin de trouver du travail, de travailler, comme ça a toujours été le cas d'ailleurs dans l'histoire de Hong Kong. Surtout pas donner dans un discours qui verrait dans ces Chinois des envoyés de Pékin, ce qui a été fait d'ailleurs par des populistes hongkongais dans les années 2010, qui parlaient de manière très de sauterelle pour parler des Chinois, etc. Donc, il ne faut absolument pas tomber dans ce biais-là.
Les localistes ont...
Voilà, c'était les localistes, absolument.
De ceux qui disaient que les Chinois étaient des sauterelles qui venaient, entre guillemets, envahir Hong Kong. Un discours, évidemment, qui n'est pas repris aujourd'hui et que vous rejetez de toute façon, Chloé Froissart. Alors, on a retrouvé Éric Sauteudet. J'avais peur que vous ayez subi le même sort que les personnages de la disparition. Éric Sauteudet, mais vous êtes là. Je vous repose cette question. Est-ce que vous avez vu Hong Kong changer progressivement jusque dans ces paysages, d'une certaine façon, comme si la ville de Shenzhen, immédiatement voisine côté Chine populaire, débordait progressivement sur Hong Kong, ou c'est quelque chose qui n'a pas de sens de le voir comme ça ?
Très honnêtement, sur une base quotidienne, enfin sur d'un point de vue de vie quotidienne, il n'y a pas un changement radical. En plus, ce qui s'est passé, c'est que on a une forme de cynisme ou un sentiment de les gens sont désabusés par rapport aussi à ce qui s'est passé à Hong Kong. Donc, d'une certaine façon, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que les gens vont vers Shenzhen, les Hongkongais vont vers Shenzhen tous les week-ends. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec la personne de Decathlon qui me disait que, par exemple, le plus grand magasin de Decathlon à Shenzhen, dans le quartier de Fujian, le week-end, la clientèle, c'est 80% de Hongkongais. Donc, il y a une intégration progressive dans le delta de la rivière des Perles et dans ce qu'on appelle ici la Greater Bay Area, qui est d'ailleurs une volonté du gouvernement. Mais sur le quotidien même à Hong Kong, la sinisation, on va dire, la nationalisation de Hong Kong, c'est pas, très honnêtement, c'est pas quelque chose qui saute aux yeux, et on transforme pas un paysage urbain du jour au lendemain en décrétant une loi qui a par contre profondément transformé à la fois le système politique et bien évidemment aussi la vie de la société civile.
Vous qui enseignez à l'université chinoise de Hong Kong et à l'université baptiste de Hong Kong, vous n'avez pas nécessairement vu beaucoup plus d'étudiants chinois ou de professeurs de Chine continentale ?
Ah, si.
Si ? Enfin, Chloé Froissart, oui, si vous.
Ah oui, c'est absolument, ça c'est un fait avéré. Beaucoup de chercheurs avec lesquels d'ailleurs je collaborais quand moi-même j'ai travaillé à Hong Kong, occidentaux, qu'ils soient américains ou européens, sont partis, ont quitté Hong Kong depuis la fin des années 2010. Ça c'est une évidence, et ils ont été remplacés par des enseignants chinois.
Voilà. Éric Sauteudet, de votre côté, à l'université chinoise ou l'université baptiste ?
Oui, non, bien sûr. Et d'ailleurs, on a la proportion. Et d'ailleurs, c'est affiché. Hein. Il y a plus de 40% maintenant des professeurs qui sont d'origine de Chine continentale. Mais comme on le disait plus tôt, ça ne veut pas dire. Enfin, il y a aussi des gens qui sont très ouverts d'esprit. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui est complètement une sorte de mise au pas des staffs des universités. Après, sur les étudiants, il y a aussi une volonté du gouvernement. Bon, c'est aussi une question de rentabilité, mais on est passé d'un pourcentage de 20% d'étudiants venant de l'extérieur à 40% aujourd'hui pour les undergrads, pour tout ce qui est dans la licence. Pour tout ce qui est master, il y a toujours eu beaucoup d'étudiants du continent, mais tous ces étudiants du continent, moi je sais qu'à chaque fin de cours, à chaque fin de semestre, même quand j'enseigne l'été, j'ai beaucoup d'étudiants du continent, et ils pensent qu'il y a une chose, c'est quand même aller voir ailleurs. Donc j'écris beaucoup de lettres de recommandation pour aller étudier en dehors de Chine.
Alors vous écrivez des lettres de recommandation, Eric Sauteudé, maintenant, du reste de ce que vous pouvez écrire ou dire à l'université, comme il s'agit aussi dans cette discussion de voir ce qu'il reste d'espace possible de résistance, d'interstice, y compris de liberté de parole. Est-ce qu'à l'université, il est encore possible de pousser certaines limites, lesquelles et comment ?
Ah, bah oui, ça c'est toute la question. Bon, il y a eu plusieurs rapports qui sont sortis. Human Rights Watch a fait un très très gros rapport sur l'état de l'université à Hong Kong, et notamment les sciences sociales, avec les restrictions qui peuvent exister. Donc, je ne vais pas dire qu'il y a pas... il y a beaucoup d'autocensure, ça c'est une première chose, ça c'est évident. Les départements de sciences politiques ne s'appellent plus des départements de sciences politiques, donc on s'est réorienté vers un côté beaucoup plus administration publique, gouvernance, etc., en dépolitisant au maximum, bien évidemment, les sujets. Par contre, il n'y a aucune des bibliothèques qui n'a été purgée. Hein, les bibliothèques, je veux dire, d'université, je ne parle pas des bibliothèques publiques qui, là, pour le coup, certaines ont été purgées, mais les bibliothèques universitaires n'ont pas été purgées. Et moi, très honnêtement, ça dépend après des personnes, mais... c'est vrai qu'à partir du moment où je discute de la société civile, on ne va pas parler du sexe des anges, et on est obligé quand même d'aborder des sujets qui peuvent être parfois, disons, dans la conflictualité, et c'est évident. La seule chose, c'est que il faut faire plus ou moins attention si on est dans un amphi de 500 personnes où on ne connaît pas les étudiants, ou on est dans une classe de 20 à 40 étudiants où là on connaît tous les étudiants.
En tout cas, les bibliothèques universitaires n'ont pas été purgées, disiez-vous, alors que les bibliothèques publiques, elles, ont vu disparaître de leur rayon des titres d'intellectuels chinois comme ceux de Horace Chin, Raymond Wong, Albert Ho, des intellectuels ou députés de Hong Kong qui réfléchissent aussi à ce que veut dire la notion de démocratie, à comment elle peut ou doit être appliquée à Hong Kong, etc. Chloé Froissart, quels autres interstices ? Que reste-t-il des médias citoyens indépendants qui étaient très nombreux à Hong Kong ?
Peut-être juste mot sur l'éducation pour compléter ce que vient de dire Eric. L'offensive de Pékin a été plus sur l'école primaire et le lycée que sur l'université, absolument. Et la pensée, Xi Jinping est aujourd'hui enseigné au lycée. Il y a toute une version de l'histoire qui vise notamment à effacer l'histoire de Hong Kong dans ses luttes par rapport à la Chine, etc., et de présenter Hong Kong comme un lien indéfectible entre la Chine et Hong Kong. Bref, tout ce contre quoi les activistes, les lycéens s'étaient battus dans les années 2010, notamment en 2012, pour justement freiner, s'opposer à l'entrée des manuels scolaires imposé par la Chine au lycée à Hong Kong, ben aujourd'hui c'est une réalité. Comme le disait Eric, peut-être que les contraintes sont un peu moins directes à l'université, quoique. Ce qui est évident, c'est que l'autocensure est là très 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 importante. C'est-à-dire, on sait que le politique est une ligne à pas franchir et que parler de Hong Kong est quelque chose d'extrêmement difficile, encore plus de la Chine.
Ce qui teinte aujourd'hui y compris vos échanges avec vos collègues à Hong Kong.
Alors, ce que eux me disent, c'est que certains qui ont besoin de s'adapter, qui veulent s'adapter, mais d'autres ne veulent pas s'adapter. Il faut qu'on apprenne des Chinois de mainland, du continent, pour savoir justement comment négocier ces limites qui sont floues, qui sont pas claires. Et justement, beaucoup sont plongés dans une grande angoisse en disant, on n'a jamais vécu ça, parce que le propre d'un état de droit qui était Hong Kong au départ, c'était de savoir exactement ce qui était permis, ce qui n'est pas permis, de savoir exactement la limite. Or là, la limite, elle devient floue. Et justement, cette autocensure qui est induite par la peur, par la restriction, par des exemples qui doivent... Eh bien, c'est une position extrêmement confortable et anxiogène pour beaucoup d'enseignants-chercheurs que j'ai rencontrés. Après, d'autres continuent à publier. Alors, il y a un interstice auquel on ne pense pas souvent, c'est celui d'être très très académique, c'est-à-dire de suivre, de publier dans des revues classées à l'international, et donc d'être, de suivre comme ça une charte professionnelle. Et j'ai encore des collègues que j'en profite pour saluer ici, qui disent les choses dans un langage certes pas du tout accessible au grand public, c'est justement ça l'enjeu, mais qui disent les choses, que ce soit Fouroy-Line sur le système juridique, Edmund Chung ou Samson Yuan en sociologie politique, ou encore en philosophie, Cho Po Chung, dont on traduit un extrait dans le livre que j'ai publié avec Anne Chung.
Donc des universitaires qui réussissent à publier des écrits suffisamment bien construits pour qu'ils ne soient pas attaquables, ou parfois dans un langage, comme vous dites, extrêmement universitaire, donc pas accessible à tous en Chine continentale, à ceux qui voudraient pouvoir contrôler ce qui est écrit. Est-ce qu'il en va de même, Eric Sauteudet, pour les journalistes et la presse? Par exemple, est-ce qu'elle a questionné, cette presse encore indépendante plus ou moins, les éventuelles responsabilités des autorités dans le grand incendie de Wang Fung Court en novembre, pour lequel vous aviez beaucoup écrit, d'ailleurs, à ce sujet, vous l'aviez suivi de près, cet incendie?
Oui, alors bien sûr, non, c'est toute la sphère, tout a changé. Il ne faut pas non plus, faut pas la peine de passer par quel chemin. À partir du moment où Apple Daily a fermé en juin 2021, et puis après il y a eu la fermeture de Stan News, de Citizen News, donc des journaux qui sont nés aussi dans le sillage du mouvement des parapluies de 2014, toute cette sphère des médias a complètement disparu. Après, y a quand même, et il y a beaucoup de journalistes aussi qui ont arrêté leur métier. Après, il y a quand même des officines qui restent. Il y a notamment, on le cite pas très souvent, mais il y a le journal des classes moyennes chinoises ici, donc Mingpao, qui continue à faire des choses, à pousser au maximum les possibilités, donc là, de faire du reportage, de questionner les autorités, y compris sur la sécurité nationale. Par exemple, quand l'ordonnance de 2024, en mars 2024, a été votée, ils ont demandé à avoir accès aux récriminations et aux engagements de la société qui avait envoyé des commentaires sur la loi, etc. Et on leur a donné accès et ils ont publié plusieurs pages, questionnement, la façon dont justement s'était déroulé le processus, ce que disaient les gens, les choses qui pouvaient être contradictoires, ce qui n'avait pas été rapporté, etc. Donc il y a quand même une marge de manœuvre, chose qui n'existerait pas, qui ne pourrait pas du tout advenir en Chine. Après, sur le grand feu dont vous parliez, il y a une semaine ou quelques jours, où il y a eu vraiment un questionnement aussi qui est apparu dans les journaux, y compris dans d'autres journaux. HKO1, par exemple, qui est un journal en chinois plutôt légitimiste, ils ont fait il y a eu un édito à un moment où ils ont comparé, par exemple, à ce qui s'est passé à Crans-Montana, en disant « c'est marrant parce qu'en Suisse, au moins les autorités sont excusées ont admis une part de responsabilité, alors qu'ici, les responsables ne sont pas capables de le faire. » Un genre de choses qu'on ne verrait pas du tout en Chine. Donc, voilà, il y a quand même ce genre de choses. On ne donne pas d'un coup de trait d'une loi, on n'élimine pas 60 ans de développement de la société civile et de la liberté d'expression dans la presse.
Apparemment, cela n'a pas vraiment été organisé par qui que ce soit, mais on fait cela à la manière hongkongaise. C'est très civilisé et c'est important de se sentir triste ensemble pour être moins seul. On n'a pas vraiment le droit de se réunir, théoriquement, donc c'est très rare de voir cela.
De mon point de vue, c'était évitable. Donc oui, c'est une catastrophe, mais ce n'est pas simplement une catastrophe.
Des milliers de Hongkongais ont rendu hommage aux victimes de l'incendie de Wang Fung Court. Ici, en décembre dernier, c'est un reportage de Florence de Changy pour RFI. Ce n'est pas simplement une catastrophe, dit ce riverain qui a suivi l'incendie de loin, qui, enfin, il y a tout, c'est chargé de sous-entendre. entendu cette phrase-là, Chloé Froissart, l'archaïsme des échafaudages en bambou, pas de concurrence dans les marchés publics, on entend quand même dans cette phrase qui est lourde de sens, une forme d'accusation des autorités. Chloé Froissart, vous sembliez nous dire tout à l'heure que les Hongkongais devaient désapprendre la liberté d'une certaine manière, en tout cas de ce qu'ils vous en disent. C'est encore trop récent, ces atteintes aux libertés, pour qu'il ne subsiste pas quelques réflexes de liberté, en quelque sorte.
Oui, absolument. Je pense que cet incendie est symbolique à plusieurs égards, avant tout parce que, enfin, c'est ce que m'ont dit beaucoup d'amis hongkongais que j'ai eu au téléphone à ce moment-là, c'est que pour eux, ça symbolisait le peu de cas que le gouvernement de Hong Kong faisait de la vie humaine. Et donc, c'est un peu le reproche qu'on fait régulièrement au gouvernement chinois. Et pour eux, c'était vraiment l'incarnation de la mainlandisation, en quelque sorte, la continentalisation du gouvernement de Hong Kong. D'autant plus que le marché qui était que les autorités hongkongaises faisaient valoir à la population, c'était de dire, écoutez, nous, on vous... on vous assure la sécurité qui va la sécurité. Voilà, hein. On vous assure la sécurité, on vous assure le livelihood, comme on dit, le bien-être, la protection sociale, le développement économique, etc. En échange, voilà. Enfin, c'était vraiment ça qui était mis en avant. Or là, on voit très bien que cet incendie a symbolisé le fait que voilà, les matériaux étaient pas n'était pas aux normes, la construction non plus. Tout est parti d'un échafaudage en bambou qui symbolise, voilà, le pire de l'exploitation aussi des ouvriers en Chine qui font qui construisent des grands immeubles, voilà, et qui au péril de leur vie, tout ça, une sorte d'archaïsme hors âge. Et voilà. Et donc, les gens ont été extrêmement choqués et ils ont voulu voilà, témoigner leur soutien, leur amertume et leur faire des rassemblements de deuil. Et ces rassemblements ont été interdits les uns après les autres. Il y en avait un qui devait se tenir encore là récemment dans un parc à côté du lieu où ça a eu lieu, du lieu de l'incendie à Tai Po. Et il a été interdit. Bon, un des rares partis, l'Association pour le développement, la démocratie et le bien-être des Hongkongais devait également s'exprimer. Tout ça, ça a été interdit. Donc c'est vraiment, y a pas plus de possibilité de s'exprimer à partir du moment où cette parole pourrait remettre en cause l'action du gouvernement.
Et en l'occurrence, des infrastructures qui partent en fumée, c'est toujours cette métaphore de la disparition, et cette fois au sens propre. Et Chloé Froissart, tout à l'heure, quand j'établissais une forme de liste à la Pérec, pour le coup, de ce qui disparaît à Hong Kong, des partis politiques qui se dissolvent, des opposants qui se volatilisent, des voix qui s'éteignent et des foules qui s'évaporent, vous me disiez, il y a aussi les mots qui se vident de leur sens. Le mot « un pays » deux systèmes. En fait, il est toujours employé pour parler de Hong Kong en Chine continentale. Ça existe encore, on en parle encore de Hong Kong comme d'un un même pays, mais avec deux systèmes différents, ce qui, en fait, n'a plus de sens aujourd'hui.
Oui, alors ce principe qui était à la base de la déclaration conjointe sino-britannique de 84 et qui était les termes de la rétrocession de Hong Kong en 97, préserver le système capitaliste de Hong Kong, son way of life, la démocratie, enfin l'état de droit en tout cas, et aller vers plus de démocratie. Tout ça a été large. Le mot d'ordre est resté, le principe est resté dans le discours, mais il a été évidé de son sens par la suppression de toutes les libertés publiques, par la suppression de tout ce qui faisait l'identité hongkongaise, une justice indépendante fondée sur la common law, des libertés de la presse, la liberté d'enseignement académique, etc., dont on a parlé. Il y a plus de 60 associations, groupes de la société civile qui se sont dissous, qui ont été interdits depuis le passage de la loi sur la sécurité nationale. Les procès qu'on a vus aujourd'hui des 47, de Jimmy Lai, ce sont des procès politiques. Donc, mais ce qui reste, c'est cette référence à la démocratie, une démocratie qui marche, pour reprendre le titre d'un livre blanc qui a été publié par la Chine sur Hong Kong, je crois que c'était en 2020. Et ça montre vraiment une stratégie importante hein, qui est mise en avant par Pékin, qui est de faire de se référer toujours à cette démocratie pour en réalité justifier un État de plus en plus policier.
Alors on est parti de la société hongkongaise et on remonte ainsi jusqu'aux institutions pour comprendre comment se joue aujourd'hui et s'opère cette progressive disparition. Le gouvernement de Hong Kong, Eric Sotedé, et avec lui son administration, avec ses milliers de fonctionnaires, est-ce qu'ils ont les moyens à ce jour de tout contrôler, puisque cette loi de sécurité nationale, à partir du moment où elle impose, enfin elle restreint les libertés publiques, où elle impose de ne plus dire ou de ne plus faire ceci ou cela, eh bien elle est censée ensuite être suivie de moyens pour que ce contrôle soit effectif. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ?
Oui, oui, bien sûr, mais il y a au-delà, c'est pas tellement l'administration publique hongkongaise. Alors, l'administration publique hongkongaise a été affectée par cette loi parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis. Il y a beaucoup de fonctionnaires aussi qui ont démissionné et qui sont partis en Angleterre, surtout à partir du moment où l'Angleterre a donné la possibilité aux gens d'utiliser leur passeport biennaux pour aller en Angleterre. Donc, on a 200 000 personnes qui sont parties. Mais, pardon ?
Non, Chloé Frassard disait des juges, mais comme on a un gros décalage avec Hong Kong, je vous laisse continuer, on peut malheureusement pas avoir vraiment d'échange. Donc allez-y, continuez votre démonstration, Eric Sotedé. Oui.
Non, sur... et donc, par contre, il y a eu, en même temps, avec la loi, en fait, il y a la mise en place d'un bureau de sauvegarde de la sécurité nationale, avec énormément de personnes, donc plusieurs centaines de personnes qui y travaillent, avec deux centres névralgiques à Hong Kong, et qui font ça à plein temps. Et ces gens-là, il faut quand même qu'ils justifient leur travail. Donc, ce sont eux qui ont l'œil vraiment aux aguets, et qui surveillent tout ce qui peut se passer dans la société. Et puis, surtout... les gens sont très très fortement encouragés à dénoncer et il y a énormément de dénonciations.
Mais en préparant cette émission avec Fanny Richer, vous lui avez expliqué notamment que l'élaboration des lois est aujourd'hui, si ce n'est compliqué, quasiment parfois risible, que les lois sont mal ficelées. Vous en vouliez par exemple une loi récente sur le port obligatoire de ceintures de sécurité dans les bus publics qui était censée entrer en vigueur le 25 janvier dernier. Et apparemment ça a créé la panique parce que personne ne peut le contrôler. De quoi s'agit-il ?
Oui, c'est-à-dire qu'ils ont passé la loi. D'ailleurs, même les journalistes qui peuvent encore fonctionner s'en voulaient parce qu'ils avaient raté le projet de loi et dans toute sa stupidité. Et ils ont fait une loi qui imposait donc le port de la ceinture pour les gens qui étaient assis dans un certain sens, même pas les gens qui étaient, bien sûr, les gens qui étaient debout n'avaient pas de ceinture de sécurité. Et puis surtout, dans la loi, était indiqué qu'en fait, il n'y avait que les bus qui commençaient à opérer à partir du 25 janvier 2026. Donc, ça voulait dire que toute la flotte de bus qui existe à l'heure actuelle n'était pas concerné par la loi. Donc ça a été un vrai... tout le monde s'en est beaucoup moqué. Et bien évidemment, ça a été, encore une fois, une sorte de symbole de ce qui était devenu cette administration dans sa totale incompétence.
Chloé Frassard.
Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut rappeler et qui est extrêmement important. C'est que depuis le passage de la loi sur la sécurité nationale, donc le 30 juin 2020, il y a toute une série de nouvelles institutions qui ont été créées à Hong Kong. Et de plus en plus, la Chine dirige directement Hong Kong, au mépris de la Basic Law, dont l'article 22 stipule que ce sont les Hongkongais qui administrent Hong Kong, hein, qui gouvernent Hong Kong. Et donc, Eric mentionnait à l'instant le bureau pour la sauvegarde de la sécurité nationale. Ou de fait, qui a pour mission de superviser, de guider le gouvernement local sur des questions de sécurité nationale et dont les agents, en fait, sont chargés d'enquêter et de poursuivre les personnes susceptibles, accusées de porter atteinte à la sécurité nationale. Et... il y a aussi quelque chose de très important, c'est que depuis le bureau de liaison, donc comme son nom l'indique, qui date en fait une institution qui a été créée au moment du processus de rétrocession de Hong Kong à la Chine, et donc, comme son nom l'indique, qui devait faire la liaison entre Pékin et Hong Kong, est aujourd'hui également fondé à intervenir directement, et c'est ce qu'il fait, dans les affaires intérieures de Hong Kong. Et par ailleurs, le nouveau chef de l'exécutif Hong Kong hongkongais, hein, depuis John Lee, qui a remplacé Carrie Lam en 2022. Et qui est lui-même issu de la sécurité nationale, hein, et qui a réprimé toutes les manifestations, notamment contre le projet de loi d'extradition vers la Chine. Et désormais, quasiment catapulté par Pékin, hein, l'élection du chief executive est aujourd'hui sanctionnée par un comité qui est largement acquis à Pékin et qui ne fait que plébisciter des choix de Pékin. Voilà, et par ailleurs, autre dernière peut-être précision, mais qui est assez importante, c'est que jusqu'à récemment, c'était le bureau des affaires de Hong Kong et de Macao sous le Conseil des affaires de l'État à Pékin qui s'occupait des affaires de Hong Kong et Macao. Et aujourd'hui, ce bureau a été transféré au comité central du parti, qui lui-même interfère de plus en plus, enfin, qui gère directement de plus en plus les affaires de Hong Kong. Et tout ça, les Hongkongais se le sont réappropriés et l'ont institutionnalisé, ce discours sur la sécurité nationale, sur la surveillance, etc., à travers cette fameuse ordonnance de mars 2024 sur la protection de la sécurité nationale, en vertu de laquelle aujourd'hui, un pays de système signifie protéger la souveraineté de Pékin et la sécurité nationale et non plus préserver le système démocratique et capitaliste.
Et c'est au nom de cette sécurité nationale et en vertu, entre guillemets, de la loi sur la sécurité nationale et des ordonnances qui s'en sont suivies que 200 personnes à peu près sont poursuivies aujourd'hui ou ont été jugées déjà dans des dossiers instruits par des juges d'exception qui traitent donc exclusivement 400. Des affaires de... C'est 400 aujourd'hui, 400 personnes concernées. C'est juste d'exception qui traite exclusivement ou presque des affaires de sécurité nationale. Mais est-ce qu'encore aujourd'hui, Eric Sauteudet, est-ce qu'il y a des juges pour ne pas se laisser influencer par le ministère public, le procureur général, pour maintenir une certaine distance, où ça n'est plus du tout possible, distance avec Pékin, 100 ans ?
Oui, le fait qu'ils aient nommé des juges spéciaux, et donc une vingtaine de juges qui instruisent tous ces dossiers de sécurité nationale, alors il en reste une centaine hein, à instruire. Il y en a déjà donc effectivement plus de 200 qui ont été instruits. Mais moi, j'ai assisté, on l'a vu la semaine dernière avec Jimmy Lai, donc, qui a été innocenté d'une accusation de fraude pour laquelle il avait été condamné en 2022, où il avait quand même écopé de 5 ans et 9 mois de prison. Donc ça a été, le juge l'a innocenté. Bon, ça, c'est quand même un gage d'indépendance de la justice à certains niveaux. Et c'était pas un juge de la sécurité nationale, bien évidemment. Et puis, je l'ai vu, j'ai assisté à plusieurs audiences où j'ai vu effectivement des juges tenir la dragée haute au ministère public en leur disant « mais vous n'avez pas de preuves ». Et ici, la politique n'a pas, enfin, il ne leur disait pas comme ça, mais c'était la politique n'a pas vocation à triompher dans une cour de justice et il faut instruire un dossier sur la base de preuves et tant que vous ne m'amènerez pas de preuves, ben, il n'y aura pas de suite. Donc moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de dossiers sur lesquels le système judiciaire continue à faire preuve d'une certaine indépendance, excepté bien évidemment pour tout ce qui touche la sécurité nationale. Alors le problème après, c'est que la sécurité nationale a tendance à déborder sur d'autres affaires. Ça, c'est une autre question.
Alors, Chloé Froissart, parce que sur cette question du procès de Jimmy Lai, qui a en effet été condamné à 20 ans de prison pour sédition ou collusion avec un pays étranger, ce dont parlait Eric Sauteudet, le fait que son appel, en revanche, ait été remporté, qu'il a remporté son appel contre une autre condamnation pour fraude qui date de 2022, c'est un juge qui s'appelle Jeremy Poon qui l'a prononcé, qui par ailleurs trois jours plus tôt rejeté l'appel de 12 autres militants condamnés quant à eux pour avoir organisé une primaire de l'opposition en juillet 2020, donc tout est très complexe. Que reste-t-il, Chloé Froissart, des bases de l'état de droit dans la façon dont la justice est rendue aujourd'hui à Hong Kong ?
Bah écoutez, moi ce que je vois surtout, c'est que les jugements se font sur, en tout cas pour ceux qui ont trait à la question de la sécurité nationale, mais ce terme est tellement flou et qu'il est appliqué à n'importe qui. Hein, je veux dire, un commentateur politique peut être arrêté, un journaliste, sous le coup de la sécurité nationale, donc ça devient la quasi-totalité des potentiellement, en tout cas un nombre extrêmement important de cas peuvent tomber sous le coup de la sécurité nationale. Et moi, ce que je vois dans les jugements, que ce soit des 47, que ce soit de Jimmy Lai, etc., c'est que ce sont des jugements d'abord sur des intentions, plus que sur des faits, comme le rappelait aussi Eric, sur des faits réels. Alors, on doit prouver que l'idée, c'est de prouver que la personne avait des intentions séditieuses ou de renverser le gouvernement. Et pour ça, on fait appel à des témoins à charge qui doivent, par exemple, témoigner du fait que Jimmy Lai voulait renverser le gouvernement de chinois ou de Hong Kong, etc. Il n'y a pas de jury. Pas de juré d'assises, si vous voulez, hein, pour nous, comme si nous. Il y a, c'est une totale décontextualisation hein, dans les, la manière dont les jugements sont rendus, dans le délibéré. Aucune circonstance atténuante n'est prise en compte. Jimmy Lai est à 78 ans, il est âgé, donc il est en mauvais état de santé, il est diabétique, il est à moitié aveugle, et il est à l'isolement depuis 2020, concrètement 20 ans de prison, même si elles sont articulées à la peine précédente de 5 ans et 9 mois pour fraude, qu'il a encore été un peu tiré par les cheveux, il aura encore 18 ans à passer en prison, et ben ça équivaut à son âge et dans son état de santé à une condamnation à mort. Hein. Et pour revenir peut-être deux secondes sur cette question de fraude, en fait, de quoi il s'agit il s'agissait du fait que Apple Daily, que Jimmy Lai louait un building pour les locaux d'Apple Daily au gouvernement hongkongais. Et dans ce cadre, toutes les activités dans le building devaient être uniquement consacrées aux activités de Apple Daily. Or, Jimmy Lai avait un assistant personnel qui travaillait avec lui dans un bureau dans ce building et qui consacrait 0,06% de son temps à d'autres affaires de Jimmy Lai. Et c'est là-dessus qu'ils l'ont coincé et qu'ils l'ont condamné à 5 ans et 9 mois de prison. Donc là, il y a quand même un écart énorme entre la peine et la réalité des faits. Hein. Voilà. Bon, et il y a aussi une dernière chose, il y a des remises de peine si on coopère. Hein, donc ça, c'est quand même voilà, toutes les caractéristiques de procès politique.
Jimmy Lai n'a pas voulu plaider coupable. C'est ce qui permet en général d'obtenir une remise de peine. Lui n'a pas voulu. Bon, il a 78 ans. Joshua Wong, beaucoup plus jeune, lui, a dû finalement y consentir. Quand vous parlez du procès des 45 ou 47, ce sont ceux qui avaient organisé des primaires de l'opposition il y a quelques années et qui donc ont été arrêté dans ce cadre-là. Maintenant, on arrive bientôt à la fin de cette première partie. Or, c'est au niveau institutionnel et de la vie politique que la reprise en main par Pékin est aussi parmi les plus visibles et conséquentes au sens lourd de conséquences. Le Parti démocrate s'est dissous, Chloé Froissart, le 14 décembre dernier. Une décision collective, disent les membres du parti. En tout cas, c'est ainsi qu'ils la présentent. C'était le dernier parti à essayer de tenir debout, parti d'opposition.
Oui, il n'y a plus du tout d'opposition. Alors, la plupart des partis se sont, comme vous le dites, ça a commencé à partir de 2016, hein, à partir du moment où siéger au Let's Go signifie qu'il faut être absolument loyal à Pékin, ça n'a plus grand sens de siéger au Let's Go. Mais surtout, enfin bon, certains étaient quand même très pugnaces, c'est ça, peut-être Eric pourra en dire un mot, mais c'est surtout le problème de sécurité qui fait qu'ils se sont dissous. Hein. À partir du moment où il n'y a plus de reconnaissance d'un pluralisme politique, vous jouez votre sécurité quand vous êtes... Alors, il y a encore... un parti, en fait, qui n'est plus un parti parce qu'il ne concourt plus pour les élections, mais c'est l'Association pour la démocratie et le bien-être des Hongkongais. Et qui reste une association, mais plus un parti qui peut concourir à des élections. Mais peut-être Eric
oui,
peut dire.
Oui, Eric Sautedé, pour conclure cette première partie, un mot sur la dissolution de ce parti démocrate qui peut-être dans les faits n'était déjà plus tellement opérationnel. Je ne sais pas, vous allez nous le dire, et surtout sur la différence d'usage du mot démocratie entre Hong Kong et la Chine continentale. Ils ne parlent pas de la même chose. chose. Le Parti communiste chinois dit que lui aussi, il a sa définition de la démocratie, c'est une définition marxiste. Donc à partir de là, comment est-ce que peuvent évoluer cet accord sino-britannique de 97, c'est un accord international. Donc qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui? Quel recours, alors que la situation à Hong Kong n'est plus du tout celle qui avait été convenue avec Pékin lors de la rétrocession de 97? Qu'est-ce qu'on peut imaginer?
Bah, c'est très difficile, on le voit, hein, la question du droit international à l'heure actuelle avec l'Iran, je vous fais une petite transposition, je ne vois pas comment, par rapport à la Chine, à part une protestation, disons, formelle, je ne vois pas ce qui peut vraiment être fait. Il faut le faire, il faut bien sûr le dénoncer, etc. Mais c'est vrai que pour les États extérieurs, notamment pour l'Europe, pour les Anglais en particulier, qui ont une responsabilité particulière, il faut être toujours à l'affût et l'Europe s'exprime aussi, etc. Tout ça, c'est très bien. Pour le problème des partis, je reviens jusqu'à ce que, parce que là, votre question était double ou triple, mais c'est vrai que ça arrive à la fin, simplement sur le Parti démocrate. Sur le Parti démocrate, je vous dis juste sur, ça ne fait absolument plus sens puisqu'on n'a plus de compétition, on n'a plus de concurrence. Ce ne sont plus des élections compétitives et il y a une présélection des candidats de toute façon qui sont acceptés à se présenter. Donc ils ne peuvent même plus écrire dans les journaux. Donc ça ne fait plus sens d'être un parti politique aujourd'hui à Hong Kong.
Au Parlement local, seuls 20 des 90 députés sont encore élus au suffrage universel. On a bien vu ce que ça a donné la participation aux dernières législatives, à peine 32% de participation. Il y a une totale défiance aujourd'hui à Hong Kong. Quelqu'un à côté de moi dit persévère. Allez, si on tombe, je te tiendrai la main. C'est ce que chantait en 2019 cet artiste hongkongais Jan Lamb.
自愿今天偏偏失方处，奋斗明日要奋斗，全力向上又靠双手，怎么只会向后？加油，全力嗌加油，完了打输了检讨赛事。 或运气不可求，班车埋站再开走，疲倦身躯各有各走，身边有个说出口，努力奋斗，加油，加油，努力奋斗，同路某某。 手，就跌低第只手，尽好的能量再有，一起奋斗。
Le chanteur hongkongais Jan Lamb, Add Oil, c'est le titre de sa chanson « Mets de l'huile », expression banale d'encouragement, devenue un cri de ralliement lors des grandes manifestations de 2019 à Hong Kong qui ont provoqué la reprise en main par le gouvernement central chinois. Et ce, en dépit de l'accord de rétrocession de 97 qui devait garantir les libertés à Hong Kong pendant encore 25 ans au moins. À Hong Kong, la fin du rêve démocratique, c'est le cinquième épisode de notre longue série des villes contre les États. En l'occurrence, il est plus juste de parler d'un État contre une ville. Hong Kong ou Pékin trouvent un intérêt à lancer depuis 2020 des sortes d'expérimentations financières.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Depuis la loi sur la sécurité nationale de 2020 et la crise du Covid, Hong Kong s'est d'abord recentré sur l'économie chinoise, ce qui a convaincu de partir de nombreux investisseurs étrangers. Mais ceux qui observent la bourse de Hong Kong voient en revanche l'activité reprendre depuis un an ou deux. Bonjour Philippe Aguigné.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé à l'Institut Montaigne, enseignant sur l'économie chinoise à l'INALCO. D'abord, comment la reprise en main politique du gouvernement central chinois sur Hong Kong, sur la vie institutionnelle, le pluralisme politique, comment cette reprise en main a-t-elle également concerné la ville en tant que place financière ?
Alors, en tant que place financière, évidemment, les choses sont un petit peu différentes. Donc, il y a tout ce qu'ont décrit Chloé Froissart et Eric Sautedet, qui concerne la société civile, l'impact de la loi sur la sécurité nationale. Mais les marchés financiers de Hong Kong ont continué à fonctionner. Et du point de vue en particulier du droit commercial, du droit des affaires, c'est encore le droit de Hong Kong qui s'applique. Donc il y a eu forcément des impacts et il y a eu globalement la montée d'une certaine défiance vis-à-vis, en particulier des investisseurs internationaux vis-à-vis de Hong Kong, et ça a affecté l'activité. Vous avez mentionné la Covid. Effectivement, ça a également pas mal affecté l'activité de Hong Kong. Mais il faut bien voir que depuis longtemps déjà, ça prédate la Covid, ça prédate la loi sur la sécurité nationale. Hong Kong était quand même de plus en plus tourné vers la Chine du point de vue des activités économiques et du point de vue des économies financières. Et l'économie chinoise a quand même connu un grand coup de froid à la fin des années 2010. La Covid, la Chine est rentrée dans une période de fermeture assez brutale. Beaucoup d'investisseurs internationaux en Chine ont réduit leur présence. Donc forcément, Hong Kong a été affecté. Alors, mais à ça, il faut ajouter autre chose, qui est que les autorités de Chine avaient elles-mêmes, jusqu'à récemment, une attitude un petit peu ambiguë vis-à-vis de Hong Kong, du marché financier de Hong Kong, en disant d'un côté, on veut que ça se développe, mais de l'autre côté, en permettant le développement en concurrence avec Hong Kong de places comme Shanghai ou même Shenzhen, qui étaient présentées en Chine comme des rivaux potentiels pour Hong Kong. Et là, maintenant, depuis un ou deux ans, on voit que l'attitude là-dessus a un petit peu changé et que Hong Kong, maintenant, est promu comme une place financière internationale qui a un rôle spécial à jouer dans le développement de la Chine.
C'était la question que j'allais vous poser, Philippe Aguigné. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise chinoise va plutôt être introduite à la bourse de Hong Kong et pas celle de Shanghai, par exemple? Pourquoi ferait-elle ce choix-là? Et est-ce que les choses ont changé depuis cette reprise en main par Pékin?
Alors, pourquoi ce choix-là? Les réglementations de Hong Kong, en ce qui concerne le droit boursier, les introductions en bourse, n'ont pas changé depuis la loi sur la sécurité nationale n'a pas affecté ça. Et la plupart des investisseurs internationaux considèrent que l'environnement juridique de Hong Kong leur est quand même plus favorable que l'environnement juridique en Chine populaire directement, donc par exemple à Shanghai. Donc, toute chose égale par ailleurs, les investisseurs internationaux vont préférer, s'ils souhaitent acquérir par exemple des actions d'une société chinoise, ils préfèrent le faire si cette société est cotée à Hong Kong que si elle est cotée directement en Chine. Il y a l'environnement réglementaire. Pas seulement, il y a aussi toute une infrastructure, l'infrastructure financière de Hong Kong, c'est-à-dire les tuyaux, ce qui permet de réaliser les opérations, la logistique, qui est très importante dans ce type d'opération, est quand même particulièrement efficace à Hong Kong. Donc du coup, ça n'est pas illogique pour des sociétés chinoises, alors surtout si elles y sont encouragées par les autorités de Chine continentale, ça n'est pas illogique pour elles de faire le choix de Hong Kong par rapport à Shanghai ou Shenzhen. J'ajouterais juste un détail, mais qui a son importance, qui est que jusqu'à la fin des années 2010, les plus grandes sociétés avaient un autre choix, qui était celui de s'introduire en bourse, par exemple à New York. C'est le choix qu'avaient fait de très très grandes sociétés chinoises dans les années 2000-2010. Aujourd'hui, pour des raisons politiques, et tant du côté américain que du côté chinois, ce type d'opération n'est plus vraiment envisageable. Donc du coup, ça redonne un peu de couleur à la place de Hong Kong.
Aujourd'hui, depuis donc ces 4 ans de 6 ans maintenant de loi sur la sécurité nationale et cette reprise en main progressive, est-ce que le régime communiste, le parti communiste chinois, utilise cette place financière de Hong Kong qui s'est développée sans lui, en quelque sorte? Comment peut-être arrange-t-il certaines de... comment est-ce que le parti communiste s'arrange avec cette place pour certaines de ses affaires?
Alors, c'est le parti et l'administration, mais on sait bien qu'en Chine, parti et gouvernement, ça n'a fait souvent qu'un. La Chine a toujours utilisé Hong Kong comme centre financier. Mais récemment, la Chine a trouvé plusieurs domaines dans lesquels Hong Kong peut jouer un rôle particulier. J'en citerai peut-être trois, si on compte les introductions en bourse. Mais il y a au moins deux autres domaines. Le premier, c'est d'être un espèce de pôle d'expérimentation pour des choses que les régulateurs chinois, les régulateurs financiers, veulent comprendre, veulent tester, mais ne veulent pas déployer sur grande échelle, à grande échelle en Chine. Je vous donnerai un exemple très précis qui est celui dont on parle souvent des crypto-monnaies. Et là, en Chine, c'est interdit. Point final. Bon. Et puis, les autorités chinoises ont quand même eu un petit remords parce que quand même, ça pourrait se développer. Il y a par exemple le développement de ce qu'on appelle les stablecoins, dont certains pensent que ça peut avoir une vraie utilité, une vraie fonction. Et donc la Chine s'est dit, OK, on ne va pas le faire en Chine, mais pourquoi ne pas tenter des expériences à Hong Kong ? Et donc, un petit peu à la surprise générale, des expérimentations ont été annoncées maintenant, il y a presque deux ans, à Hong Kong. Alors ça reste d'un niveau modeste, mais on voit bien que là, la Chine utilise Hong Kong comme base d'expérimentation. Il y a un deuxième aspect qui est en réalité sans doute le plus important, qui s'inscrit dans la volonté des autorités chinoises de faire du renminbi, la monnaie chinoise, une monnaie plus internationale. Alors, ils se rendent bien compte que le renminbi ne va pas remplacer le dollar tout de suite. Ça, ils sont réalistes, mais ils souhaitent que le renminbi soit plus utilisé dans les transactions internationales ou même comme monnaie de réserve par les banques centrales. Pour faire ça, ils font face à une limite, une contrainte très forte, qui est que pour y arriver vraiment, il faudrait complètement libéraliser les contrôles d'échange en Chine, ce qu'ils ne sont pas prêts à faire. En revanche, Hong Kong, développer un marché du renminbi à Hong Kong, donc ce qu'on appelle un marché offshore du renminbi, un marché où des investisseurs internationaux peuvent investir, peuvent acheter et vendre des actifs en renminbi, ça donne une petite soupape qui va compenser le fait que ces investisseurs internationaux sont réticents à investir directement en renminbi en Chine parce que, en raison des contrôles d'échange, ils ne peuvent pas faire rentrer ou sortir leurs capitaux comme ils le veulent. Hong Kong, ça leur permet de détenir ou de vendre des actifs en renminbi sans être soumis aux contraintes du contrôle d'échange chinois. Alors, ça reste petit. Hein, c'est le marché d'Hong Kong, c'est petit par rapport à la taille du marché domestique chinois, mais ça aide un petit peu à alléger cette contrainte et donc à promouvoir l'internationalisation du renminbi.
Renminbi, donc le yuan, la monnaie de Chine continentale. Chloé Froissart ?
Oui, non, juste pour faire un micro-commentaire sur ce que vient de dire Philippe, il me semble que là aussi c'est absolument clair que Hong Kong sert avant tout les intérêts de l'État parti chinois. Il n'est absolument pas question du bien-être, du développement économique de Hong Kong, mais là, de internationalisation du renminbi, c'est-à-dire la monnaie de Chine, etc. Le bien-être, les droits de la population hongkongaise sont absolument pas à l'ordre du jour.
Sauf que Philippe Aguigné, pour conclure, si on est très cynique, sans doute les investisseurs étrangers se réjouissent-ils de voir que plus de 100 entreprises se sont cotées à Hong Kong l'année dernière, donc l'activité a repris. Ce ne sont que des entreprises chinoises, ces entreprises qui ont décidé d'être cotées à Hong Kong.
Oui, ce ne sont que des entreprises chinoises, et peut-être une ou deux exceptions, mais c'est vraiment très largement des entreprises chinoises. Mais attention, il y a un changement quand même. C'est que il y a 10 ans, ce type d'activité, par exemple les introductions en bourse, c'était les entreprises étrangères, les banques étrangères, les banques d'affaires étrangères, et en particulier les banques d'affaires américaines, jouaient un rôle très important là-dedans. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. La plupart des beaucoup de banques internationales ont quand même réduit leur présence à Hong Kong. Elles ne sont pas parties, mais elles ont réduit leur présence à Hong Kong. Et surtout, les banques chinoises sont très présentes, y compris les banques d'affaires chinoises, et elles ont appris. Elles ont appris le métier. Et donc aujourd'hui, ces introductions en bourse sont réalisées. Les revenus que ça génère, ça va principalement aux banques d'investissement chinoises. Ça ne profite plus vraiment, beaucoup moins qu'auparavant, aux banques étrangères.
Merci beaucoup Philippe Aguigny, enseignant sur l'économie chinoise à l'INALCO. Merci d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci Chloé Froissart. Également, je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez dirigé avec Anne Cheng, « Penser en résistance dans la Chine d'aujourd'hui », paru en folio essai chez Gallimard. Et je remercie et salue Eric Sautedé, chercheur indépendant à l'Université chinoise de Hong Kong et à l'Université Baptiste de Hong Kong City University et directeur de Chine Expert. Merci d'avoir été avec nous. Il est 19h pour vous. Bonne soirée. Il est l'heure de la revue de presse internationale. Revue de presse que vous présentez, Mathilde Romagnan, cette semaine. Une guerre a été éclipsée par les attaques en Iran, celle entre l'Afghanistan et le Pakistan.
Elle a commencé cette guerre jeudi dernier, deux jours avant les frappes américano-israéliennes sur l'Iran, dont les répercussions prennent toute la place dans les médias du monde entier. Même la presse pakistanaise parle d'abord des frappes de son voisin iranien, avant d'évoquer celles que mène en ce moment son pays contre l'Afghanistan. Pourtant, les explosions retentissent toujours à Kaboul aujourd'hui et les combats se poursuivent à la frontière entre les deux pays. Le Daily Pakistan cite un haut responsable pakistanais de la sécurité. Il déclare que la durée des opérations pakistanaises dépendra des mesures prises sur le terrain par le gouvernement taliban afghan. Nous ne sommes pas pressés, ajoute-t-il. Islamabad accuse les autorités talibanes de lancer des attaques armées contre son territoire, ce que l'Afghanistan dément. Le Pakistan est désormais en guerre ouverte, selon ses mots, et a lancé l'opération Razab Lil Haq, que l'on pourrait traduire en français par la colère pour le bien de la justice.
Et cette opération a déjà fait des victimes.
435 talibans afghans tués et plus de 600 blessés depuis le début de l'opération, selon le ministère de l'Information, cité par le quotidien pakistanais Daily Times. Il parle aussi de destruction de matériel militaire, dont 188 tanks. Le gouvernement afghan, lui, évoque la mort d'au moins 39 civils, dont 3 enfants. Le ministre pakistanais des Affaires étrangères et vice-premier ministre s'est exprimé hier lors d'une conférence de presse. Ishaq Dar répète que le Pakistan a déclenché cette guerre en représailles à des attentats suicides dans les provinces de Bajor et de Banu.
This is why we had now no choice but to launch Hezbollah Haq.
C'est pour cela que nous n'avions désormais pas d'autre choix que de lancer cette opération. Le Pakistan dispose de preuves irréfutables que les récents actes terroristes commis à Bajor et à Banu il y a quelques semaines ont été perpétrés par le TTP, les talibans pakistanais, à la demande de ses dirigeants et commanditaires basés en Afghanistan. Le Premier ministre pakistanais Ishaq Dar a également déclaré que ces actions étaient proportionnées et mesurées pour toucher uniquement les camps des talibans et éviter la population civile, selon le quotidien pakistanais Dawn. Les États-Unis, eux, soutiennent cette opération et défendent le droit du Pakistan à se défendre contre les talibans. Précisons que la presse afghane, elle, est muselée par le régime des talibans, ce qui ne me permet pas, dans cette revue de presse internationale, de vous en parler. Les informations venant d'Afghanistan proviennent de journalistes de l'AFP, l'agence France Presse, qui sont sur place. Selon Reporters sans frontières, les médias afghans doivent diffuser des informations contrôlés par le régime. Juste après l'arrivée des talibans au pouvoir en août 2021, il n'a fallu que 3 mois pour que 43% des médias afghans disparaissent, selon RSF.
Les frappes iraniennes sont encore à la une de nombreux journaux ce matin. Des frappes menées par des drones fabriqués par l'Iran, explique par exemple The Guardian.
Le quotidien britannique détaille l'origine de ces drones Shahed 136, reconnaissables à ce bourdonnement avant leur explosion. Vous venez d'entendre deux drones Shahed qui se sont abattus ces derniers jours à Manama, la capitale du Bahreïn, similaire à ceux qui ont été lancés sur d'autres capitales des pays du Golfe et qu'on reconnaît dans le ciel à leurs ailes formant un triangle d'une envergure de 2,5 mètres. Ils font un bruit qui provoque la terreur chez ceux qui l'entendent, écrit le Guardian. Les drones Shahed représentent deux avantages pour l'Iran comparé aux missiles balistiques. Ils coûtent 50 000 $ pièce, ce qui est relativement peu, et ils sont faciles à produire. Ces engins ne sont pas très rapides, mais ils peuvent transporter une charge explosive d'environ 50 kilos, suffisante, précise le Guardian, pour endommager un gratte-ciel, mais pas pour le détruire. Et ils volent à basse altitude, ce qui leur permet d'échapper aux radars. Les drones Shahed tiennent leur nom de leur constructeur, l'entreprise iranienne Shahed Aviation Industries. La première fois qu'on les a aperçus, rappelle le Guardian, c'était en juillet 2021, lors d'une attaque contre un pétrolier israélien qui a fait 2 morts. Mais depuis 2022, ils sont surtout utilisés par par l'armée russe dans sa guerre en Ukraine. Moscou s'en sert pour créer des essaims coordonnés pouvant compter jusqu'à 800 Shahed, explique le quotidien britannique. Le but, c'est de submerger les défenses aériennes de Kiev. En Ukraine, ces drones Shahed sont surtout utilisés pour endommager des sites précis comme les infrastructures électriques cet hiver. Une tactique russe que l'Iran semble mettre en œuvre dans les pays du Golfe. Si vous avez une question sur cette chronique ou envie d'approfondir un sujet évoqué à l'antenne, vous pouvez nous écrire à l'adresse fcrdpi@radiofrance.com. Nous y répondrons dans la chronique interactive du samedi.
Merci Mathilde Romagnan.